Il est 20h04. On vous souhaite un excellent début de semaine en ce lundi 8 janvier 2018. Soyez prudents. C'était encore bien glissant, Ray, sur les routes au moment où tu es arrivé.
Encore pas mal de neige.
Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
Très content de te retrouver.
Moi aussi.
J'ai répété ça à tous mes collègues parce que j'adore l'équipe qui m'entoure. J'adore les collaborateurs qui alimentent les amateurs de sport. Et on commence ça avec une chronique ponctuée de bien des sujets, pas mal dans l'univers du football ce soir. Mais gêne-toi pas si tu veux commenter quoi que ce soit que tu as entendu depuis le début de l'émission ou le point de presse de Marc Bergevin. Est-ce que dans ton temps, faisiez ça dimanche soir, vous autres, les points de presse de du coach ou du GM? Là,
Non. Écoute, encore une fois, avec un peu d'objectivité, évidemment, c'est moins congestionné le dimanche que le lundi. Quoique aujourd'hui, c'est un peu comme la rentrée de janvier, comme il y a une rentrée en septembre, mon avis, évidemment. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, c'est la journée que tout le monde aurait voulu être à l'écoute de ça. Tous les journalistes, tous les médias qui se dépensent corps et âme durant l'année pour couvrir le club, pour faire en sorte que le club prenne de la valeur, Mario. Mm-hmm. Faut que tu redonnes aux gens qui t'aident là-dedans. Alors, je veux dire, je comprends là la réaction, la crainte aussi, des fois, d'être grillé, drillé de tous les mots possibles par les journalistes. Mais à la fin...
Il y a une prudence.
Ben oui, tu leur dois quand même de l'information. Le dimanche, c'est pas comparable à un lundi, surtout quand c'est le retour après la période des fêtes. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire.
Ben oui, c'était pas l'objet de notre conversation. J'en ai parlé en masse à venir jusqu'à maintenant ce soir. On va se tourner du côté de John Gruden. Bruno avait un commentaire intéressant tout à l'heure quand il dit son stock a pris de la valeur alors qu'il était analyste à ESPN. Parce que c'est vrai, on l'entend. Il est bon, il est divertissant. D'ailleurs, même, il y en a qui prétendent que t'sais, il a été tellement élogé envers certains athlètes qu'il y a des athlètes qui vont probablement vouloir venir jouer pour lui. Sa fiche en carrière, 98 victoires, 81 défaites. En éliminatoire, 5 victoires, 4 défaites. Il a déjà été échangé, il a déjà été congédié, mais 100 millions sur 10 ans. Ou, tu sais, tu trouves ça trop? Ou un Babcock qui a fait sauter la cagnotte également à Toronto. Est-ce que ça vaut la peine pour une organisation d'investir autant dans son entraîneur-chef?
Mario, la semaine dernière, il y a un entraîneur à l'Université Louisiana State, au football universitaire américain, qui a signé un contrat comme entraîneur adjoint, coordinateur défensif, Dave Aranda, à 2,5 millions de dollars. Là, on parle d'une université américaine qui signe un adjoint à 2,5 millions. Alors, pourquoi? Parce que l'entraîneur-chef à Louisiana State croit fondamentalement que c'est le morceau qui manque au casse-tête de LSU pour aller à un autre niveau et effectivement rejoindre un club comme Alabama. Alors, tous les sports confondus, Mario, on doit accepter que dans une business de divertissement où les gens payent pour consommer ça, que ce soit Tom Cruise dans un film qui reçoit 25 à 50 millions de dollars, que ce soit des artistes qui divertissent les gens lors des concerts puis qui font une tournée qui leur donne 100 millions de dollars, Mario, ce sont des chiffres qui sont ridiculement élevés pour toi et moi, mais on est prêts, nous, comme consommateurs, à dépenser notre temps et notre argent pour les voir à l'œuvre.
Tom Cruise n'a pas juste fait des bons films.
Non, absolument
pour le même cachet.
Pour le même cachet.
Est-ce qu'il y a une garantie de résultat avec un John Gruden qui arrive à la barre des Raiders
absolument
de Vegas?
Absolument pas, mais la raison pourquoi 10 millions par année pour 10 ans, plus gros contrat de l'histoire de la NFL, en vaut la peine, et pour moi, c'est une aubaine, c'est simplement parce que les Raiders s'apprêtent à déménager à Las Vegas. Monsieur Mark Davis, le fils de Al Davis, le défunt, ancien glorieux propriétaire et flamboyant propriétaire des Raiders, ben, les Raiders ont une obligation, comme équipe mythique, d'être présent et d'être imposant sur le terrain et d'avoir des résultats. Ils ne peuvent pas être médiocres. Ils doivent faire mieux.
Et comme les Golden Knights au hockey en ce moment, là.
Ben, dans un sens, Golden Knights arrivait comme équipe d'expansion. Ils avaient rien à perdre. Ils commençaient. Mais les Raiders s'en vont à Las Vegas. Monsieur Davis participe au financement de 1,9 milliard de dollars, Mario, pour le stade. Son club en vaut 3 milliards. Est-ce que tu penses que 10 millions par année pour un coach est un problème pour lui? Absolument pas. Surtout s'il ramène un Raider dans l'organisation, un visage populaire comme Bruno l'a dit, une personnalité qui recrute, qui séduit les gens, les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs, qui va connecter avec son public, qui est une personnalité qui va amener le leadership manquant.
T'aimes John Gruden, toi?
Non, mais j'aime les leaders de ce calibre-là, en sachant très bien que rien n'est assuré en termes de victoire ou défaite, Mario. Mais une chose qui est claire, c'est que John Gruden va immédiatement donner de la crédibilité et rassurer le Raider Nation, la base de partisans des Raiders.
Je sais pas si tu pensais qu'elle allait revenir dans le coaching parce que on en était pas
je
sûr.
Je le croyais pas personnellement. Ça prenait une offre de ce niveau-là. Ça fait plusieurs années que Mark Davis tente de le rapatrier. Et on a même parlé à un moment donné qu'il y avait peut-être une possibilité d'actionnariat dans le club. Tu vois, pour te montrer à tel point, Mark Davis était prêt à tout faire pour l'emmener avec les Raiders. Alors, ça a pris tout ça pour le sortir d'une belle carrière avec ESPN, où tout va très bien pour lui. Il fait énormément d'argent, il est très visible à Monday Night Football. Mais dans le fond de l'âme, c'est un coach, un entraîneur. Et il voulait retourner à ce qu'il fait de mieux et ce qu'il est passionné de faire.
J'aurais dû faire la recherche avant de te poser la question, ma brûle. Pourquoi de même? Tu sais-tu comment il faut aller chercher comme analyste à ESPN par année?
C'était au moins 4 à 5 millions de dollars par année. Très bien payé parce que c'est Monday Night Football, une des grandes propriétés de sport télévisé. Mais à la fin, c'est un passionné de coacher, d'enseigner, de communiquer. C'est d'ailleurs ce qu'il faisait très bien aussi
très
à la télé.
Oui.
Il analyse, il décortique, il a une personnalité que les gens avec lesquels les gens veulent se connecter. Moi, personnellement, ça revient toujours au leadership. Et qu'est-ce qu'il représente comme investissement? Et les grandes organisations, que ce soit Apple, que ce soit Coca-Cola, que ce soit McDonald's, que ce soit les équipes sportives, ont une obligation d'investir dans les 2, 3, 4 leaders de leur organisation. Ce sont les chefs qui dirigent les autres. Et c'est ces gens-là qui sont importants, donc il faut payer le prix pour les avoir.
Il me semble d'avoir un Belichick qui vient de voir ce contrat-là ou qui va voir la confirmation de ce contrat-là demain. Là. Belichick, soit dit en passant, vient de dire publiquement que... Parce que là, je ne sais pas si les gens avaient pris connaissance de ça pendant les derniers jours, les dernières semaines. Là. Il y a une espèce de rififi, semble-t-il, là, dévoilé par ESPN, nié par les Patriots.
Un peu de bisbille à l'intérieur de l'organisation.
Et Belichick dit que c'est sûr et certain qu'il coach en 2018 les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.
Ben Mario... À mon avis, il n'y a pas plus que 2 ou 3 visages, personnages comme Belichick et John Gruden dans la NFL actuellement.
Mais tu mets-tu Gruden dans la même famille?
S'il avait coaché plus longtemps, je pense qu'il aurait eu
autant de
autant de succès, mais beaucoup de succès. Il a gagné un Super Bowl avec les Buccaneers. Pas évident de gagner
en
un Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay.
Ouais.
Et là, il a eu une bonne séquence de 4 ans avec les Raiders. Et je pense qu'il va connaître du succès parce que les Raiders, justement, mon autre point par rapport à Mark Davis, s'en va à Las Vegas, mais il a aussi un club plein de potentiel. Derek Carr comme quart arrière, des jeunes joueurs de talent. Les Raiders sont proches.
Il arrive au bon timing,
exactement.
Honnêtement. Là.
Ben oui, il le sait lui aussi.
Il sait lui aussi.
Et Mark Davis le sait comme propriétaire en disant, c'est le gars qui manque dans mon casse-tête pour m'emmener au nouveau sommet en étant à la veille de déménager à Las Vegas. Bon.
J'ai hâte de voir si... tu sais, le marché des jeux vidéo là avec Madden, c'est Madden qui a l'eau du pavé de tout ça.
Un ancien Raider.
Oui, mais je sais pas si Gruden sera pas son successeur.
Ça, c'est effectivement un très bon point parce que c'est le genre de personnage chevronné qui est légendaire pour la personnalité.
Oui.
Et Madden l'était. Vraiment, là, ça, c'est unique. Et Gruden, parce que Gruden s'exprime. Belichick ne s'exprime pas. Fait qu'on revient au dossier des Patriots. Le problème des Patriots actuellement, c'est un problème de succès, trop de succès. En 18 ans, Robert Kraft, Bill Belichick et Tom Brady ont gagné 5 Super Bowls. Ils ont dominé. À la fin, Robert Kraft écoute ce que Tom Brady veut. Tom Brady lui a donné 5 championnats. Il ne faut jamais enlever rien, quoi que ce soit à Tom Brady. Mais selon moi, le morceau critique et le cerveau, c'est toujours Belichick. Parce que même quand les Patriots perdaient des joueurs, autres qu'un quart arrière,
il
les remplaçait. Et non seulement ça, il trouvait des adjoints parce qu'il perdait ses adjoints. Il trouvait de nouveaux adjoints pour rebâtir un système pour gagner. Et force est d'admettre, Mario, aujourd'hui, à 2-3 semaines du Super Bowl, là, je pense que les Patriots sont au moins une des 2 meilleures équipes de la NFL, favoris pour le Super Bowl, encore une fois, et grâce à Bill Belichick et son brio. Alors, le problème des Patriots avec la petite Bisbee et Jimmy Garoppolo qui a été échangé aux 49ers comme pas grand-chose, un choix de 2e ronde, puis Robert Kraft qui aurait exigé qu'on l'échange pour que Brady puisse jouer en paix sans savoir qu'il y avait quelqu'un dans son dos qui allait le remplacer bientôt. Savoir aussi que Brady a amené son... en thérapeute spécialisé, nutritionniste, diététicien, ainsi de suite, Alex Guerrero dans l'équation, jusqu'à temps que Belichick le sorte des lieux internes des Patriots. Alors, la chicane est un peu prise là-dedans, mais je pense que ces 3 gars-là, au-delà de tout, sont des champions, des gagnants. Ils veulent à tout prix gagner. Ils vont tout faire pour s'entendre ensemble.
Penses-tu que Belichick et Brady ont eu des petits accrochages?
Certainement. Il y en a dans toutes les équipes, il y en a dans toutes les organisations, mais je pense qu'à la fin, les deux se regardent mutuellement en se disant « Wow, grâce à toi et grâce à toi, réciproquement, on a gagné 5 Super Bowls. »
Dans une organisation, toi qui as travaillé dans 3-4 ligues professionnelles, dont à même une équipe là, dans deux, les Alouettes et le Canadien, est-ce qu'on est trop à plat ventre devant les joueurs vedettes d'une équipe? Quand ils ont gagné 5 Super Bowls, c'est une chose, mais quand ils n'ont rien gagné, je veux dire, est-ce qu'on est trop à genoux devant les...
Ben, ça dépend de ce qu'on voit, Mario, comme le potentiel, comme l'opportunité que ces joueurs-là soient des pièces critiques dans notre casse-tête, dans notre stratégie, dans notre tactique de gagner. Si on pense qu'un gars n'a pas encore gagné, mais c'est un morceau important qu'on a besoin d'investir et bâtir autour de lui, mm-hmm. C'est un peu comme les Warriors avec Steph Curry. Quand ils l'ont choisi il y a quelques années, c'était au 8e ou 9e rang, de 8e ou 9e ronde. Et c'était un joueur qui était d'un petit collège Davidson que personne ne connaissait, mais on savait qu'on avait un tireur élite, on avait un joueur avec une attitude exemplaire et on devait bâtir les Warriors autour de lui. Alors c'est ça qu'ils ont fait. Et ultimement, quand ils ont acquis Kevin Durant, ben là, c'était peut-être le dernier morceau qui manquait. Ça prend toujours une foi, une confiance mm-hmm. en quelques pièces importantes comme joueur. Et donc là-dessus, on doit être flexible et on doit s'adapter. Mais t'as raison de dire que faut pas non plus laisser les joueurs opérer le club. Tu vois, c'est le dirigeant qui doit prendre ces décisions-là et ça prend un dirigeant avec une tête forte.
Une autorité naturelle également, puis qui amène un respect naturel de la part de ceux qui le dirigent. On va faire une pause, Ray. On passe la demi-heure ensemble et j'ai effleuré tout à l'heure avec Bruno Eppel le dossier Johnny Manziel. Tout indique qu'il va jouer dans la Ligue canadienne. Je pense que ça peut être un plus pour la Ligue s'il joue au niveau qu'on s'attend. Mais là, les Alouettes doivent lui avoir parlé ou parler à son agent, là, parce qu'il y a un processus qui est en cours. Mais je veux te parler de ce dossier-là, puis on va parler aussi de la finale du football collégial ou universitaire, que tu appelles ça, de la NCAA, ouais. Évidemment, Alabama-Georgia après la pause.
Ce soir.